Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Swear. Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soir. Bonjour mon cher Rust.
Bonjour mon cher Guillaume.
Alors, podcast exceptionnel dans le sens où on avait prévu autre chose. Donc, les deux podcasts seront des interviews. Donc, interview avec Aymeric Pudding, qui est tout simplement le meilleur en France en bras de fer, qui s'est mesuré au meilleur. Donc, on a discuté de tout ça. La différence sport de combat, bras de fer, tout l'aspect mental. Enfin, vraiment, on a pris beaucoup de plaisir, je crois, Rust, à faire ce podcast.
Ouais, l'aspect technique aussi, parce que c'est ça.
Exactement.
C'est ultra technique, le bras de fer.
Exactement. Donc, ça sortira demain. Petite mise au point, cependant, voilà, il y a pas mal de choses qu'il explique qui auraient été mieux dans le cadre d'un reportage. Donc, on prévoit aussi de faire ça dans les prochaines semaines, prochains mois avec lui. Donc, voilà, mais en tout cas, c'était très intéressant. Ensuite, nous avons discuté avec un strongman français, le meilleur, là aussi, du pays. Et ça sortira donc dimanche, sauf, bien évidemment, actu du genre Ngannou John Jones, qui là, ça y est, mon cher Rust, au-delà de se titiller depuis un certain nombre de temps. Donc, quand on dit titiller, c'est John Jones qui avait dit il y a quelques mois un combat contre Francis Ngannou, me semble.
Mon cher Guillaume,
ah oui, vous avez raison, mon cher Rust. Merci beaucoup pour nos auditeurs. Oui, qui avait dit qu'un combat contre Ngannou lui semblait inévitable. Eh bien là, ça y est, les deux se sont mis d'accord. On n'attend plus que l'UFC. Personnellement, moi, je pense que ce serait avant, justement, de parler de la technique et tout ça. Pour moi, c'est une bonne option pour les deux. Parce que c'est vrai qu'un John Jones, ça lui permet de se tester face à un top contender qui, certes, n'est pas champion, mais qui est vu tout le monde, de tous, comme le mec le plus effrayant de la planète. Deux, Francis, ça lui permet dans une situation où il n'a pas à, comme depuis un an et demi quasiment, à se dire « l'UFC ne me file pas le title shot, qu'est-ce que je dois faire de plus ?» Là, ok, c'est pas pour le titre, mais s'il bat John Jones, si vous voulez, c'est presque aussi fort, sinon encore plus important que le titre, parce qu'il a tout simplement battu l'un des plus grands de tous les temps.
Bah, il aura tout simplement battu un mec qui a jamais été battu, quoi. Enfin, d'accord, c'était chaud contre Dominique Reyes, mais à part ça, on peut dire ce qu'on veut, c'était peut-être très très serré. Il n'empêche qu'il n'a jamais été battu déjà officiellement et clairement par qui que ce soit. Et voilà, bah, c'est un des GOATs, si ce n'est le GOAT. Donc c'est clair que pour John Jones, bon, on va y venir, mais c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu haut quand même, je trouve, en tout cas personnellement, ouais, comme marche. Mais
pour le coup, si bat Ngannou, tu balais tous les doutes là.
Ah, mais c'est clair, si bat Ngannou, tout ce qu'on dit depuis déjà 3-4 combats, comme quoi ouais, on dirait bien qu'il ralentit, il n'est plus aussi dominateur. Si tu bats le dragon dans la forêt, bon, bah, quelque part, c'est bon. Enfin, toute la crédibilité, ça revient comme une barre de vie dans Tekken, tu vois.
Et exactement.
Du coup, en revanche, je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Il est tellement coutumier du fait, John Jones, de parler beaucoup, mais de jamais y aller, que personnellement, j'y croirais quand je le verrais, et pour l'instant, ça me fait ni chaud ni froid. C'est cool parce qu'il y a du Twitter war, mais j'y crois absolument pas pour l'instant.
Cela dit, alors, comme d'habitude, donc quand il y avait eu le Miocic et John Jones qui s'étaient justement mis un peu d'accord aussi, là, tu as quand même un truc où les deux font un petit peu pression sur l'UFC. Les deux n'ont pas non plus aussi, à la différence des fois précédentes, de combat évident pour la suite. Et c'est là où moi j'y crois un petit peu plus que d'habitude, dans le sens où Miocic, bah, il avait la ceinture, donc c'était un petit peu compliqué, et John Jones, il avait des contenders évidents à battre. Là, pour John Jones, c'est des combats, ok, il y a Dominic Reyes, il y a Blachowicz, mais c'est deux combats où je pense que l'UFC, s'ils les font, bah, c'est plus, bon, ok, on garde John Jones actif, il n'y a rien de plus à prouver finalement. Et pour Francis, bah, voilà, il est obligé d'attendre la trilogie Cormier contre Miocic, et l'UFC privilégiera toujours Cormier, parce que bah, un des plus grands de tous les temps, qui est aussi comme ça avec Dana White, avec l'UFC car commentateur, et puis toujours irréprochable. Donc forcément, comme les deux, je pense, l'UFC, on l'a vu à maintes reprises, hein, ils ont quand même envie justement de faire rentrer l'argent. Donc plutôt que de laisser les deux sur le côté pendant 6 mois, ils peuvent se dire, bon bah Francis, il a battu Rosenstruck en 20 secondes, donc finalement il est bon pour le service la semaine prochaine quasiment. Mm-hmm. Et John Jones n'a plus combattu depuis un petit moment, donc ils peuvent faire ce combat-là.
C'est vrai.
En plus, ça cartonnerait, je pense, en pay-per-view.
Ça cartonnerait. Après, cela dit, je crois que Ngannou lui-même a dit qu'il est chaud. Oui, en même temps, oui, ça revient au même. Parce qu'il a dit pas tout de suite, mais il serait chaud en juin, quoi. Mais oui, enfin, ça revient, c'est vrai, au même. En revanche, je me demande, c'est vrai que du point de vue de l'USC, je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est vrai que pour eux, c'est plus tellement un risque, en fait, de mettre John Jones, disons, entre guillemets, et prendre le risque qu'il se fasse démonter. Parce que maintenant, il n'a plus grand-chose qu'il peut faire en light heavyweight qui rapporterait quoi que ce soit à l'UFC. Parce que les Cormier, c'est terminé. Il n'y a plus vraiment de challenger qui rapporterait de l'argent. Donc, il n'y a plus vraiment de méga fight pour John Jones en light heavyweight qui ferait, je sais pas, mettons, plus de 500 000, 600 000 en pay-per-view. Donc, en fait, maintenant, c'est un peu comme ils ont trait la vache jusqu'à ce qu'elle soit rachitique, tu vois. Donc, en fait, maintenant qu'ils ont complètement poncé John Jones et qu'il n'y a plus grand-chose à en faire, ils n'ont plus, entre guillemets, bien sûr, ils n'ont plus vraiment de risque à prendre, à le mettre contre un monstre et à prendre ce risque-là. Donc, c'est vrai que pour eux aussi, ça se fait.
Et j'ai même envie de dire que pour l'UFC n'a aucun intérêt à ce que John Jones combatte en light heavyweight, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, et John Jones l'avait dit, hein, bien évidemment, à sa manière, mais il a été tellement impressionnant en light heavyweight que chaque combat qu'il fait, c'est des critiques en plus pour lui, c'est des critiques pour l'UFC qui mettent un peu plus la pression en mode, bah, regardez, le gars, il faut absolument qu'il monte en heavyweight. Donc, même s'il a, imaginez, il monte contre Roswell en heavyweight, ça n'arrivera bien évidemment jamais, mais il galère comme jamais pour battre Roswell, il y aura toujours ce « ah bah il est monté, c'est pour ça, fallait un temps d'adaptation
ouais, ». Ouais.
Il galère pour battre Anthony, enfin, Anthony Smith, c'était impressionnant, mais les gens avaient déjà mis des critiques. Ensuite, il galère contre Thiago Santos, puis contre Dominic Reyes, qu'on boit des top contenders, bah les gens, c'est presque pire qu'une défaite pour lui, parce ouais. que les gens sont là, bah regardez le dopage, regardez, il y a une vraie finalement, enfin il y a un vrai déclin pour John Jones. Là, je pense que l'UFC Dana White, tout le monde est en mode « ok, monte, soit monte ». Ou soit, et c'est là où je suis un petit peu, le seul truc qui, moi, et vous avez été nombreux, d'ailleurs, à nous envoyer des messages là-dessus, c'est plutôt que le combat contre Ngannou, c'est vrai que le combat qui paraissait plutôt évident, c'était celui contre Adesanya. Et c'est vrai que si John Jones monte contre Ngannou, est-ce que ça on balaie complètement ça? Parce qu'à mon avis, s'il monte contre Ngannou et qu'il bat Ngannou, la suite logique, c'est le title shot.
Ouais, c'est clair. Après, j'ai presque envie de dire, d'un autre côté, je pense que vu ce qu'a montré Adesanya dans sa carrière, il est suffisamment fou pour s'en ficher et aller en poids lourd pour combattre John Jones s'il le
oui.
faut. Donc c'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on est quand même, franchement, il faut le souligner, on est quand même là dans une génération de combattants depuis quelques années, dont les, ça y est, en gros, c'est, ils sont prêts à tout, mais dans le bon sens du terme, dans le sens, ils n'hésitent pas à monter, ils n'hésitent pas à se frotter au meilleur quoi qu'il arrive. Il y a, que ce soit les McGregor, que ce soit les Adesanya, que ce soit les
Holloway,
et les Holloway, enfin, il y a vraiment tout le monde, les Cormier qui monte, qui descend, tout le monde est en mode dans le registre, tant que c'est possible physiquement, c'est-à-dire que Cerrudo va pas aller affronter Ngannou, c'est sûr, tu vois. Quoique, on a fait un podcast
quatre,
dessus.
Mais voilà. Quatre, Cerrudo.
Mais quatre, ça irait. Mais tant que c'est dans le domaine du possible physiquement, eh ben, en gros, on est vraiment là dans une espèce de vague où les combattants sont chauds, en fait. Ils sont chauds pour tout, pour n'importe quoi, pour le faire. Donc, je pense qu'Adesanya, ça ne lui enlèverait pas forcément l'envie et ça ne lui couperait rien du tout sous le pied si John Jones montait en poids lourd. Du tout.
Donc notre cher John Jones, qui là avait déjà émis le souhait donc, de monter en heavyweight pour Brock Lesnar, ou justement pour Miocic éventuellement, mais c'est surtout une affaire de gros sous, bien évidemment. Avec Francis, il serait assuré que l'UFC mette justement tout l'appareil communication en marche pour faire en sorte que ce soit le choc des titans. Alors, mon cher Rust, d'un côté, nous aurons la puissance, peut-être le mec le plus puissant de la planète ou de l'histoire de l'UFC, parce qu'en termes d'athlétisme, c'est assez dingue, parce qu'il a, Francis Ngannou, ce que n'avait pas Shane Carwin en termes vraiment d'explosivité et le fait de, bah, vous l'avez vu contre Zunstruck, hein, de pouvoir déclencher 3000 fois trop loin et bah, finalement ça finit par passer. Et d'un côté, John Jones, qui est peut-être en termes physique, athlétique, le combattant ultime dans le sens où il sait tout faire. Certes, pour l'instant, on peut émettre des doutes sur le fait qu'il soit toujours au top, mais John Jones veut prouver et là il a l'air déterminé à se dire, bah, j'ai envie d'affronter le mec que personne ne veut affronter et qui semble tout simplement imbattable aujourd'hui. Donc, est-ce possible?
C'est là tout de suite. Après, il y a un biais de c'est récent, on vient de voir Ngannou, il est sur 4 victoires d'affilée, on a envie de dire il est inarrêtable. C'est vrai que c'est tendu, le match-up est vraiment intéressant. Le match-up est vraiment intéressant parce que, comment dire, c'est un peu ce qu'on espérait avec Anthony Johnson contre John Jones. c'est voilà, qu'est-ce que John Jones peut faire. Donc John Jones peut être plus technique que les plus techniques de sa catégorie, il peut les dominer quel que soit leur domaine de prédilection, mais qu'est-ce qu'il peut faire si en gros il se retrouve face à une espèce de tornade imprévisible, un mec qui sort des enfers, tu sais, la fumée qui sort du nez, et en gros qui lui envoie le... Ouais, c'est ça, enfin, l'enfer est... Techniquement, oui, c'est-à-dire que Anthony Johnson et Ngannou sont des mecs qui sont techniques, mais disons, il y a une certaine, il y a un certain chaos qu'ils amènent quand même.
Exactement.
Et comment est-ce que John Jones réagit au chaos avec des mecs qui sont surpuissants ? On n'avait pas eu cette réponse face à Anthony Johnson, et en gros, bah là, ce serait, comment dire, il reprendrait un peu les affaires là où il les a laissées contre ce type d'adversaire, sauf qu'en gros, plus un, quoi. Parce que Francis Ngannou, c'est quand même la version hardcore, la version God Mode d'Anthony Johnson, quoi. Ouais. Donc, ce serait vraiment intéressant. On a vu que John Jones, récemment, alors contre Thiago Santos, parce qu'il a fait une comparaison sur Twitter, John Jones, en disant à Ngannou, bah, écoute, j'ai été capable de gérer la boxe de Thiago Santos et en gros, en faisant sous-entendu, il est plus rapide et il est plus technique que Francis Ngannou, entre guillemets, ça devrait aller. Je pense que, évidemment, et John Jones le sait, personne n'est dupe, hein, c'est du trash talk, évidemment, c'est totalement différent. Et la boxe de Francis, la puissance de Francis, la longe, la vitesse de Francis, c'est pas pareil que celle de Thiago Santos. Il a des armes différentes, Thiago Santos, mais du point de vue de l'explosivité, de la longueur des coups, du in and out, et en gros, bah, juste de la puissance pure, là, on n'est même pas dans la même division. Enfin, là, c'est, on est sur CFA, Ligue des Champions, quoi. Et du coup, je pense que ce serait très intéressant. Alors, ça dépendrait de l'approche de Francis, parce que là, je pense que ce serait un peu aussi une rédemption. Parce que contre Miocic, bon, bah voilà, tout le monde se souvient ce qui s'est passé contre Miocic. Et ça a été un peu bon, bah, tout par avolo. Et comme si Francis avait quelque chose à prouver, parce qu'on attend, il avait tellement de pression, on attendait de lui tellement après les combats d'avant Miocic, qu'en gros, il a dû se dire, bon, bah, il faut que j'y aille à fond. C'était une erreur visiblement. Et. Là, ce serait une espèce de rédemption parce qu'il aurait en face de lui, pareil, un mec qui est très durable, un mec qui est bon partout, un mec qui peut le menacer du premier jusqu'au dernier round. Et je pense que ce serait intéressant et qu'à mon avis, cette fois-ci, Francis aurait une approche peut-être un tout petit peu plus mesurée. Après, bon, c'est mesuré, mais ça reste Francis Ngannou. C'est-à-dire que c'est mesuré, mais en un coup, t'es mort quand même, quoi. Donc, ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'il approche le combat Francis, sachant qu'effectivement...
Moi, pour le coup, c'est juste un indicateur... entre guillemets physique, on va dire, dans le sens où je pense que si personnellement sur le combat je vois John Jones, parce qu'on l'a vu, on l'a vu se faire toucher, jamais par des mecs comme Francis bien évidemment, mais on l'a vu, c'est hyper rare qu'il se fasse toucher proprement. Quand il se fait toucher proprement, bah, il arrive toujours à traverser la tempête. Et quand vous regardez par exemple le dernier combat contre Thiago Santos où il s'était fait toucher, ou même contre Dominique Reyes où il s'était fait toucher, la plupart des coups il les prend pas flush.
Ouais,
à chaque fois il arrive à rouler avec les coups ou utiliser justement ses mains, ses coudes pour faire en sorte que ce soit jamais panique à bord. Il y a ça, il y a aussi le côté que mine de rien, voilà, ok, ces trois derniers combats c'est terminé à chaque fois par la décision, mais il gère John Jones, il gère merveilleusement bien. Et pour un mec comme Francis Ngannou, et John Jones, je pense qu'il va très bien le savoir, c'est de se dire, t'as deux rounds pour réussir à le finir. Parce que si John Jones est toujours en vie après deux rounds, ça veut dire que ce que Francis apporte n'aura pas, tout simplement pas fonctionné. Ouais. Donc si ça apporte, tu auras bien évidemment toujours ces alertes énormes qui seront quand même, je pense qu'on fera tous à chaque fois. Mais on pourrait être dans une situation, comme tu l'as dit, comme contre Miocic. Mais je pense que même si Ngannou a une approche qui est différente de ce qui s'est passé contre Miocic, si Jones est toujours là après deux rounds, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas que Francis sera tenté, mais que John Jones aura réussi à contrer. Et dernier point, et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment envie de voir ce combat, c'est que mine de rien, John Jones, depuis trois fights, on le dit, c'est sa lutte qui est finalement, on a beaucoup d'interrogations là-dessus, c'est là-dessus qu'il avait réussi à finir Gustafsson, mais là depuis, il l'utilise quand même beaucoup moins, ou juste justement pour scorer le takedown et puis s'assurer de prendre le round. Contre Francis, il sera obligé d'être hyper sharp là-dessus, parce qu'il pouvait se permettre de rester debout contre Thiago Santos.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Contre Francis, même si tu restes, il l'a vu, John Jones, je pense, lors du combat contre Miocic, même si tu restes debout et que tu arrives à traverser les bombes, pas pour ton espérance de vie, c'est pas une bonne initiative, et même pour ton discours, si ensuite tu veux faire la post-fight interview, c'est pas non plus une bonne chose que de rester debout contre Francis. Donc il sera obligé d'utiliser ça. Donc là aussi, pour moi, on va dire sportivement, ça m'intéresse.
Ouais, complètement. Parce que il est extrêmement technique debout et ce serait vraiment intéressant de voir vraiment le combat en striking entre John Jones et Francis. Parce
que
le risque, c'est ça le problème. Le problème, c'est le risque parce que, comment dire, on sait que John Jones, la longe est relativement similaire. Ouais. Je crois que c'est 2m11 pour Francis, 2m15 pour Jones.
Je vous donne quand même une idée. Enfin, c'est monstrueux.
C'est monstrueux. Problème. C'est absolument monstrueux. Mais c'est vrai que Jones est un peu plus... On a vu qu'il galérait un petit peu quand même malgré tout contre Dominic Reyes, mais normalement, il a des armes pour théoriquement maintenir à distance, avec les jambes particulièrement, sa gestion des distances, même sa manière de... Bon, bah, parfois avec des high poke, mais de maintenir comme ça. Mais le problème, c'est voilà, est-ce que ça marche contre des light heavyweight? Est-ce que ça marcherait contre un mec qui ne va pas respecter ta puissance, en fait? Parce que je pense que Francis... Disons, John Jones, je pense, n'a pas la puissance nécessaire pour véritablement neutraliser Francis, je pense. Il faut voir ce que donnerait un John Jones en poids lourd, mais je ne pense pas qu'il ait la puissance nécessaire. Et en plus, ce n'est pas un mec qui est explosif, c'est un mec qui est vraiment technique pour arrêter lorsque la locomotive Francis se met en marche.
Ben on l'a vu, compliqué. Pour le coup. On l'a vu, hein, contre Miocic et même contre Rozenstruik, où il s'est pris deux coups. C'était des coups assez puissants, il n'en a rien à foutre. Et contre Miocic, c'était punition aussi, mais il a terminé le combat et en relatif bon état.
Ouais. Donc en fait, c'est vrai que debout, ce serait quand même très, très, très risqué. Et après, c'est vrai que pour ce qui est de la lutte, comment dire, même si, genre, si c'est du clinch, s'il est contre la cage ou s'il essaye de mettre Francis au sol, ça va être compliqué, je pense. C'est-à-dire que même si techniquement, il est probablement au-dessus. Là, on est à un niveau, un différentiel technique et athlétique. C'est juste, c'est complètement délirant. Enfin,
exactement.
Avec la meilleure technique du monde, je pense que si tu as ce différentiel physique et athlétique, c'est extrêmement compliqué. C'est possible, bien sûr.
Mais
que c'est possible.
Mais tout dépend du John Jones qui arrive aussi. C'est pour ça, moi, c'est ça. Vraiment, s'il arrive en mode John Jones, peu de chance, hein, John Jones de 110 kilos, vrai, enfin, tu vois. En mode véritable heavyweight, je pense que c'est très chaud pour Francis. Si ouais. C'est juste un John Jones qui n'a pas fait son cutting, entre guillemets, parce que bien sûr, il aura quand même pris du muscle pour ça, je pense que là, par contre, pour John Jones, ça sera très compliqué.
Ouais, non, c'est sûr. Vraiment, c'est vrai que c'est la grosse inconnue. Hein, c'est de ça. Comment est-ce qu'arrivera John Jones? Parce que si ça se trouve, il arrivera genre, je ne sais pas, tanké comme jamais, et on va voir un nouveau John Jones et on va se découvrir, ça va lui découvrir. Ce serait stylé, hein, vraiment, ce serait stylé. Parce que du coup, s'il veut arriver comme ça physiquement, il lui faut minimum 6 mois. Enfin,
exactement.
Pour prendre autant de masse et arriver tanké comme ça, il lui faut minimum 6 mois. Parce qu'on a vu avec Ovince Saint-Preux, d'accord, c'est le confinement, et d'accord, Ovince Saint-Preux n'a jamais été ultra dessiné. Mais bon, clairement.
Oui, là, tu voyais qu'il avait pris, c'était plus en mode flemme de côté que véritablement.
Exactement. Après, John Jones, c'est vraiment un mec qui, bon, il n'est pas champion pour rien, il ferait ça à la perfection. Et il ferait ça, il serait entouré des meilleurs diététiciens, des meilleures personnes pour lui vraiment lui donner la carapace heavyweight qu'il faut. Mais c'est donc visiblement pas un heavyweight naturel comme un mec comme Francis, et c'est là où c'est compliqué. Et donc voilà, faut voir s'il met vraiment l'emphase sur la lutte, sur intercepter les avancées et les locomotives de Francis, les intercepter un peu en mode GSP pour le mettre au sol, parce que s'il déclenche chez takedown genre de nulle part, ça passera pas. Enfin, je pense qu'il faut que ce soit en contre contre Francis. Donc s'il travaille ça à mort, et évidemment ça peut le faire, il faudrait qu'il retravaille aussi sa lutte en enchaînement, c'est ce qui lui manquait sur ses derniers combats. Et on avait dit que c'est ça qui est extrêmement compliqué, en fait, c'est que pour des lutteurs de métier, mais ils le font tous les jours, donc garder cette espèce de cette gymnastique intellectuelle autant que cette habitude physique de la lutte en enchaînement, de garder vraiment l'habitude, d'avoir le bon réflexe, la bonne réponse au positionnement à chaque fois nouveau de ton adversaire. C'est pour ça que Khabib est extrêmement bon, c'est qu'il continue à s'entraîner exclusivement sur ça aussi. Et c'est pour ça que John Jones, c'était l'hypothèse de Chael Sonnen, c'est pour ça que John Jones a du mal maintenant à maintenir ses adversaires au sol, parce que les y mettre, c'est une chose, mais les maintenir, c'en est une autre. C'est parce qu'en gros, il ne travaille plus autant sa lutte en enchaînement et ça s'oublie. Et il faudrait donc qu'ils se remettent à faire ça. Encore une fois, voilà, maintenir Francis au sol, il faut qu'il soit crevé, sinon t'as quasiment aucune chance, quoi.
Et surtout, est-ce qu'il peut vraiment devenir un véritable heavyweight? Parce qu'on en parlait, souvent avec John Jones, un peu comme Mansour Barnaoui, ils ont là encore, entre guillemets, des petites jambes, et c'est ce qui leur permet d'avoir, on va dire, un haut du corps si développé, mais de faire le poids. Mansour Barnaoui, parce que si vous l'avez vu à la Nuit Blanche la soirée, vous voyez qu'il est quand même hyper massif, mais c'est vrai qu'il peut quand même faire le poids en lightweight assez facilement. Et John Jones peut faire le poids en light heavyweight parce que justement, il n'a pas deux troncs d'arbres à la place des jambes qui fait que justement, sinon, il serait obligé d'être en heavyweight. Et s'il monte en heavyweight, faut qu'il puisse justement prendre, entre guillemets, harmonieusement parce que sinon, il risque de se retrouver dans une situation, toute proportion gardée bien évidemment, façon Deontay Wilder, où en fait vous prenez du poids, mais vous avez juste pris du poids pour prendre du poids, et au fil des rounds, vous traînez finalement ce scaphandre de muscles avec vous parce que votre corps était tout simplement pas prêt à encaisser ces 10-15 kilos de plus. Ouais. Donc pour John Jones, là aussi, mais comme Ross l'a dit, hein, il fera ça, je pense, très bien, comme un peu Georges Saint-Pierre l'avait fait, malgré les petits soucis de santé. Je pense que s'il monte en heavyweight, il fera en sorte qu'il n'y ait justement pas ça, et puis surtout pour un mec comme John Jones qui base justement tout son jeu sur du premier au cinquième round, j'apporte la même intensité, qu'au troisième, il ne soit pas comme ça en train de clamser, parce que surtout contre Francis Ngannou, ça pourrait être quand même très très compliqué. Mais là encore, c'est ce qui est un peu... Enfin, il n'aura jamais la même intensité qu'un vrai combat pour une grande première en heavyweight. Et ouais, c'est vrai qu'à la différence de tout ce qu'il peut y avoir, et là, quand on dit tout ce qu'il peut y avoir, même Daniel Cormier et Miocic n'apportent pas autant de danger qu'un Francis Ngannou. Et Ngannou, même s'il est complètement cuit, au cinquième round, s'il vous touche, ça peut être très très chaud pour vous.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, un mec comme Cain Velasquez, je pense que, parce qu'il n'était pas énorme, et il battait des mecs qui étaient énormes. Et je pense que Cain Velasquez, je ne me souviens plus, mais je pense que quand il était au top, qu'il battait les Brock Lesnar, qu'il battait tout le monde, il était peut-être à 108, 109, 110 kilos, et vraiment, je pense pas beaucoup plus. Mais après, c'est vraiment aussi une question de style et de morphotype.
Exactement.
Et c'est quelqu'un qui était petit pour un heavyweight, Cain Velasquez, et qui avait un style qui était... Il te colle du début à la fin. C'est-à-dire que, bon, bah, contre Francis, déjà, on a vu que c'était compliqué. Mais ça marche théoriquement contre les heavyweight parce que du coup, bah, vu qu'il te colle constamment, tu peux pas vraiment trouver d'espace pour mettre en branle ta puissance de KO. Et en plus de ça, il avait un, malgré ce qu'on dit, relativement bon menton quand même, Cain Velasquez, parce que dans les combats, par exemple, contre Junior Dos Santos, les 2 et 3, il se prend des trucs énormes et il reste debout. Enfin, donc, il n'avait pas non plus un menton de verre, je pense, même si on se souvient des knockdowns contre Shaq Congo, il y a le KO contre Francis, etc. Ouais. Mais c'est vraiment une question de style et de morphotype. Pour un mec qui est grand, longiligne et qui se repose sur une technique plutôt restée à distance et plutôt voilà, travailler techniquement en striking majoritairement, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, d'avoir une telle différence de poids parce que du coup voilà, tu es vraiment obligé d'arrêter l'avancée d'un mec constamment qui clairement voilà, c'est Bowser dans Super Mario, enfin c'est compliqué, tu peux pas vraiment danser autour d'un tu peux disons. C'est là où c'est vraiment intéressant, il faudra qu'on fasse une analyse qui est plus poussée et qu'on regarde tout, etc.
Bah de toute façon, si le combat est officialisé...
Ah bah alors là, on va se faire plaisir. Mais c'est vrai que comme ça, à première vue... Ah bon, ça va tartiner sec, mon gars. Mais pour l'instant, c'est vrai que voilà, on s'était dit contre Rosenstruik, si jamais Rosenstruik s'était décalé un petit peu vers la gauche ou la droite, et ça, c'est toi qui l'avais dit, Guillaume, que bah, ça aurait ressemblé un peu à du Ronda Rousey versus Holly Holm. Et c'est vrai. Après, voilà, est-ce que Ngannou s'est dit de toute façon... Je sais ce qui va se passer, donc j'ai même pas besoin d'être technique. C'est largement possible aussi, parce que quand il veut être technique, il peut. On l'a vu contre Léo Verim, contre bah, ses autres combats, en fait, généralement. Et donc voilà, il ferait peut-être pas cette erreur-là d'arriver comme ça, toute berzingue et pas forcément très technique contre John Jones. Et donc, si on se retrouve, en fait, c'est ça. Si on se retrouve avec un Ngannou qui est un gros stalker, comme on l'a vu contre Miocic, mais en restant technique et mesuré, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas vraiment eu contre Lucic, mais ce qu'attendait Fernand, par exemple. Alors là, c'est chaud pour John Jones. Hein. Mais très, 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 très chaud. Donc, même si on a un John Jones d'élite, c'est très chaud, je pense, pour moi, qu'il réussisse à s'en sortir sur 5 rounds. Si Ngannou arrive dans cette mentalité-là. Ouais. C'est technique, un peu comme Fernand l'aurait souhaité contre Lucic.
Complètement. Et puis voilà, puis à voir si... Entre John Jones encaisse bien ou pas, hein, parce que c'est vrai que pour l'instant aussi, pour Francis, il y avait bien évidemment cette faillite physique, on va dire, face à Miocic, mais aussi, je pense, le fait de se dire bah, je vais quand même balancer tout ce que je pouvais balancer en un round, et il n'est pas tombé. Quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Donc il a
touché, mais il a aussi beaucoup raté, comment dire, Francis. Il y a eu d'ailleurs ces moments-là où, en gros, il balance des énormes trucs et Miocic se décale et il repart. Mais ouais, effectivement, enfin, ce sera.
Et puis on a un Miocic qui était hyper intelligent, ça aussi, parce que.
Ouais,
mais je pense que là, c'est pour ça qu'on parle autant du combat de Miocic. Ça a dû servir énormément Francis. On pense notamment à ce troisième round où Miocic se fait toucher 3 fois de suite et il a ce réflexe de directement tenter le takedown et il réussit ce takedown là et ensuite justement il prend le temps de recouvrer ses esprits. Là, c'est fini pour Francis et c'était un petit peu la dernière chance pour lui. Et il y a énormément d'autres combattants qui justement. N'aurait pas eu ce réflexe-là de se dire oh putain, ça y est, la panique à bord, boum. Et pour Francis, et on peut être sûr, pareil, que John Jones, s'il est dans une situation comme ça, il fera les bons choix pour éviter justement de se faire face-planter comme tant d'autres avant lui. Yeah. Donc, avant lui. Donc voilà, je crois qu'on est assez complet sur le sujet, mon cher Rust.
Ah, je crois.
Voilà. Donc en tout cas, on en parlera si jamais ça se finalise. N'hésitez pas à nous balancer votre pronostic sur ce combat-là. Et en tout cas, oui, pour le fait que ça se fasse aussi, c'est vrai que là, l'UFC, au regard du calendrier et WMIAMG, ils ont vraiment besoin de ces gros, gros, gros fights. Donc...
Ouais. Plus c'est gros, mieux ça passe, quoi.
Ouais, exactement. Et puis le fait que les deux mettent la pression...
Ouais, c'est cool. C'est cool.
Enfin, on n'a jamais vu John Jones faire ça. Parce que jusqu'à maintenant, moi, je ne l'ai pas vu dire vraiment, bon bah ça y est, on va le faire, et puis avec autant d'incidence, parce que là ça a été sur Twitter, et les deux ont ensuite posté sur Instagram.
C'est vrai, moi je sais pas trop quoi penser, parce que John Jones, voilà, comme on l'a dit au début du podcast, il y a beaucoup aussi de comment on appelle ça déjà, d'opérations sous faux drapeau, parce qu'il faut faire parler de lui, etc. En plus, on peut se demander, au vu de ses dernières sorties extrascolaires, s'il y a aussi le confinement qui joue et il a envie de faire parler de lui et il ne sait pas trop quoi foutre et il s'ennuie dans sa vie. Honnêtement, on ne sait pas à quel point ça peut jouer aussi. Mais voilà, c'est vrai qu'en revanche, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Ça, il a l'air de le prendre cette fois-ci sérieusement. Ce n'est pas un peu comme ce qu'il avait fait avec Miocic en mode pourquoi pas Miocic. Là, c'est vraiment, il a l'air en mode envoie-moi un contrat, on va le faire. Bon, ça peut être carrément de l'esbrouf. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a l'air, ça hume un peu plus réel, quoi.
Complètement. La balle est maintenant dans le camp de l'UFC et pour être complètement complet sur le sujet, je pense aussi que ça servirait à l'UFC pour cette fameuse catégorie light heavyweight où là clairement tu fais un titre intérimaire entre Dominic Reyes et Blachowicz et comme ça tu redonnes un semblant de crédibilité au top contender parce que là. Vous qui suivez l'UFC, vous savez qui sont ces deux mecs, mais pour le public américain, c'est beaucoup plus compliqué. Donc vous avez ensuite, vous faites ah tiens, Jones redescend contre le champion intérimaire, ah ok.
Ouais. Bah limite, ou alors tu fais la ceinture tout court. Hein, parce que si Jones monte,
t'es obligé. Ah non, je pense que tu laisses ce truc, parce que là aussi, financièrement, tu fais le champion light heavyweight qui monte, donc tu lui laisses sa ceinture contre
Ngannou. Oui, c'est vrai. T'as raison, c'est vrai.
Ah, puis ensuite, tu tombes le truc cham-cham pour John Jones.
Oui, c'est vrai, et puis en plus, non, t'es gagnant dans tous les cas, parce que du coup... S'il se fait mettre KO par Francis et qu'il redescend light heavyweight, c'est en mode ah ça y est, il est prenable, il a été mis KO, donc effectivement.
Effectivement. Bon allez, mon cher Rush, big shout out to my sweet protein.
My protein right there.
Moins 38% avec le code de la sueur.
À la prochaine.
Sueur.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.